Bayeuse Unublack invite artistes, designers, philosophes, scientifiques et ingénieurs à explorer les multiples questions éthiques, critiques et de création qui se posent avec les technologies de biofabrication. Aujourd'hui, nous partageons un dialogue entre trois designers qui, chacun à leur manière, ont contribué aux collaborations entre designers et biologistes. Nous sommes au Morning OS, dans la salle du serveur du collectif BAM. Un grand merci à eux pour ce plan de repli. Quelques oreilles attentives nous écoutent, ce sont celles de Lisiane Lagadic, Marie Truffier et Michael Pommier, ainsi que Judith Krief. Merci à vous d'être parmi nous. Je vous invite à intervenir et poser vos questions durant cet épisode de Bayeux is the New Black. Pour planter le décor, voici déjà les personnages. Lisa Dehov, amoureuse du langage des couleurs et accompagnatrice de projets scientifiques. Xavier Montois, le Kafka des temps modernes. Arthur Donald Bouillet, poète au cœur de la matière. Tous et toutes sont designers de formation. Lisa, Xavier et Arthur sont diplômés de l'ENSI Les Ateliers. Lisa travaille maintenant à son compte et accompagne une équipe de scientifiques qui met au point des tests Covid. Xavier vient de trouver ses murs dans les ateliers de Paris, tandis qu'Arthur a pris place au sein de Big Bang Project. Nous diffusons la première partie de notre interview. Vous pouvez retrouver la seconde partie de l'interview la semaine prochaine. Bio is the new black. Vous avez tous ici, autour de la table, participé au concours iGEM. Marguerite Benoni, qui interviendra également dans Bayeuse New Black, a été la première designeuse en France à avoir participé en tant que candidate, mais aussi en tant que membre du jury à ce concours. iGEM, pour International Genetically Engineered Machine. Arthur, tu as participé à ce concours avec le projet AITER, Bio-Inspired Indoor Air Purifier, en 2017. Lisa et Xavier, vous avez tous les deux collaboré au projet Mosquitoes pour l'équipe Pasteur en 2016. Ce projet a reçu un certain nombre de prix, notamment un prix très récent, le prix X-Impact Tech, cette année. Je peux imaginer qu'il y a un vrai intérêt à participer à un tel concours pour les designers et à s'engager dans une telle démarche interdisciplinaire. Aussi, j'ai été assez étonnée quand je suis allée lire la thèse d'Alexandra Dessing-Ginsberg à Londres, sa thèse qui s'appelle « Better ». J'étais assez étonnée du retour personnel qu'elle fait sur ce concours. Alors même qu'elle est la première, finalement, avec le projet iChromie, à avoir fait passer le concours dans une culture du design. En effet, sa participation au jury n'avait pas été renouvelée de par une différence de vision. Elle posait un design qui posait trop de questions pour les organisateurs de ce concours. Donc on voit bien qu'à la fois, cette relation entre design et ce concours iGEM est plein d'ambivalence. Pour commencer, peut-être une question très générale. Qu'est-ce que le concours iGEM a apporté à vos pratiques de design ?
J'ai participé au concours iGEM en 2016 avec Lisa Dehov.
Xavier Montois.
Dans mon parcours, ça arrivait juste avant mon mémoire et mon diplôme. Et en fait, ça faisait assez longtemps que j'étais intéressé par les projets qui permettaient de ramener la biologie donc dans le design. J'avais déjà fait plusieurs studios au sein de l'ENSI, que ce soit assez court ou plus long, où j'essayais de ramener un peu ma passion pour la biologie dans mes projets de design. Mais là, c'était vraiment la première fois qu'on allait travailler de concert avec des scientifiques, biologistes, physiciens. Il y avait aussi des personnes en droit. Et c'était un travail donc de 9 mois au sein de l'Institut Pasteur. Donc, pour commencer, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des cours de biologie de synthèse, en fait, pour savoir comment ça marchait. Donc, par Deshmukh Gopal, qui est chercheur à l'Institut Pasteur, qu'il a fallu déjà apprendre le langage des scientifiques et tous les termes propres à la biologie de synthèse. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait pas mal de termes en commun avec le design. Et finalement, en fait, la biologie de synthèse, enfin moi en tout cas, je l'ai perçu comme quelque chose d'assez proche du design, dans le sens où finalement on vient créer un chaînon d'ADN qu'on vient matérialiser, ensuite implanter dans une petite bactérie. Et finalement, c'est un peu comme une chaîne de montage. C'est-à-dire que comme quand on conçoit un objet, il faut pouvoir penser à ce que l'objet il soit démoulable, savoir comment les parties vont s'attacher entre elles, etc. Et c'était un peu le cas aussi pour cette partie d'ADN qu'on devait concevoir.
Est-ce que l'un d'entre vous peut un petit peu expliquer qu'est-ce que tu entends par cette chaîne de montage ? Moi, j'ai peut-être déjà lu quelque part cette notion plutôt de biobrique, et c'est un petit peu ce dont j'essaie de parler dans l'assemblage de Lego, mais vous qui avez connaissance peut-être beaucoup plus fine.
Après, il faut que je me souvienne, mais...
Lisa Dehove.
Du coup, si je me souviens bien, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est modifier une partie du génome de la bactérie pour lui donner une nouvelle fonction qu'elle n'a pas d'habitude dans la nature. Et donc, ce morceau d'ADN qu'on va remplacer, on le crée de toute pièce, quoi. Soit on le prend dans un autre organisme vivant qui a cette fonction, donc on l'extrait, mais après il faut quand même le modifier pour qu'il puisse s'insérer bien dans la bactérie, la nouvelle bactérie. Donc on va faire cette histoire de construction, c'est-à-dire qu'on va l'adapter au nouveau génome dans lequel il va s'insérer. Et donc c'est ça qu'on appelle une biobrique, je crois, c'est la partie qu'on va insérer dans la nouvelle bactérie. Et je crois même que les biologistes utilisent le mot « designer », la partie d'ADN, donc c'est vraiment un vocabulaire qui est commun, qui veut pas forcément dire la même chose, parce que je pense que c'est pas exactement la même chose non plus de designer de l'ADN et de designer un objet, mais il y a quand même beaucoup de parallèles qu'on peut faire et de similitudes.
En tout cas, le chercheur qu'on imaginerait peut-être plus facilement dans une posture de découverte ou disons de description, d'analyse, là il est dans une posture de production. Et en tout cas de production d'artefacts à dessin. C'est ça qui, enfin de ce que j'entends, c'est ça qui peut-être change le plus et le rapproche quelque part de designer. Mais j'entends aussi cette expression ingénieur du vivant, enfin ou ce genre de choses, ouais. Arthur Donald Bouyer.
C'est ouais, donc c'est ce que je trouve intéressant dans ce que vous souleviez, c'est de se dire que finalement d'un seul coup, le vivant peut être considéré comme une bibliothèque de fonctions et donc ça le rapproche quelque part d'un objet. Presque standardisable, fonctionnel, enfin en tout cas qu'on rend fonctionnel, qu'on rend du coup au service d'une fonction ou d'un besoin. Et c'est ce truc-là que je trouve super intéressant et qui pose un certain nombre de problèmes en fait, et aussi qui fait que c'est intéressant en tant que designer de participer à des projets comme ça, quoi.
Quand tu dis que ça pose un certain nombre de problèmes, c'est dans la... Peut-être qu'on rentrera un tout petit peu plus en détail sur les projets en eux-mêmes pour expliciter, mais... c'est dans la démarche et ta posture en tant que designer ou c'est justement cette notion d'imaginer que le vivant va forcément être fonctionnel et va répondre à un besoin qui te pose problème.
Je crois que pour ma part, c'est un peu les deux. D'abord, c'est assez lié au fait de participer à ce projet lui-même en tant qu'étudiant parce qu'on est un peu naïf vis-à-vis de ce que la technologie du coup veut dire elle-même, qui pose du coup donc en elle-même un certain nombre de un problème.
Ça peut être les deux, effectivement. Si on essaye de différencier, est-ce que c'est en termes de posture est-ce que c'est le fait qu'il y a un prérequis dans la façon même dont est pensé, d'ailleurs, dont est pensé le concours, plus que peut-être la technologie en elle-même, mais de présager qu'on va venir solutionner quelque chose par ces biobriques et donc répondre à
les besoins ou le mettre au service du coup de l'individu, ouais. Oui, effectivement. Enfin, je pense que c'est effectivement les deux, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Après, moi, je pense que quand on travaille dans ces projets-là, il y a aussi une frontière assez nette, quand même, jusqu'où on peut aller en tant que designer dans la compréhension de ces trucs-là. C'est-à-dire que, ce que j'ai décrit tout à l'heure, on met la biobrique dans... Voilà, moi je vais pas beaucoup plus loin que ça, peut-être un petit peu plus en comprenant comment les molécules, etc. s'assemblent, mais il y a quand même une barrière on peut pas comprendre aussi bien, aussi finement qu'un biologiste ce qui se passe réellement au niveau des molécules et tout ça, et donc forcément, en tant que designer, on est un peu dépendant de ce qu'ils nous disent de cette technologie et de ce qu'elle veut dire et de ce qu'elle... signifie ou ce qu'elle porte et donc forcément il y a des fois où on a des questions qui n'ont pas forcément de réponse ou alors on doit trouver nos propres réponses de designer face à ces questions qui sont des questions que les biologistes ne vont pas forcément se poser ou se poser différemment.
Mais alors justement moi sur la différence de compréhension de la technologie et du coup les différentes questions qu'on peut se poser en tant que designer ou en tant que chercheur, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça parce que finalement surtout au sein du concours iGEM, comme c'est tout standardisé par biobrique, etc. Alors bien sûr, ils comprennent beaucoup mieux comment ça se passe, mais en fait, ça a été tellement standardisé et simplifié, entre guillemets, que finalement, je pense que ce qu'il y a besoin de comprendre pour le concours, c'est que il y a différentes biobriques qu'on peut assembler entre elles, qui vont faire différentes fonctions. Mais après, sur toutes les questions éthiques, enfin ou alors de bioéthique que la technologie et le concours posent, Je pense qu'on est tous à peu près au même stade.
Oui, parce que... moi je parlais plutôt de ce qu'on va faire nous dans le projet en tant que designer, c'est-à-dire que on va pas aller, c'est pas nous qui allons designer les biobriques quoi. Donc forcément, les fonctions que les molécules ont à la fin, on va les prendre comme des fonctions et c'est à partir de là que le projet de design commence réellement.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes dans Bio is the New Black avec Lisa Dehove, Arthur Donald-Bouillet et Xavier Montois. Pour la première partie de notre entretien, le concours iGEM, vu et vécu par les designers.
Sur Mosquitos, est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter du coup sur ces 9 mois-là, quel a été votre rôle? Comment est-ce que vous avez pu peut-être négocier justement ce rôle-là avec l'équipe dans laquelle vous étiez?
On peut peut-être expliquer déjà le projet en lui-même, peut-être pour...
Lisa Dehove.
Du coup, Mosquito, c'est un projet qui vise à lutter contre les virus transmis par les moustiques. Donc Zika, la dengue, chikungunya, etc. Et donc, on a conçu un ensemble d'objets qui permettent de détecter le virus directement chez le moustique pour faire de la prévention, justement, avant que ça touche l'humain. Donc c'est constitué d'un piège, une station d'analyse et une application qui permet de cartographier les résultats qu'on obtient et donc voir comment les populations de moustiques infectées se déplacent et faire de la prévention. Voilà, ça c'est le projet en lui-même. Après, Xavier, tu peux peut-être expliquer comment on en est arrivé là ?
Xavier Montois.
Oui, aussi une autre partie du projet qui est intéressante, c'est justement la matière qu'on a mise au point grâce à la biologie de synthèse, où en fait c'est... ça marche comme un test de grossesse, plus ou moins, pour les moustiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a une petite bande de papier sur laquelle on a donc nos protéines qui ont été produites par nos bactéries génétiquement modifiées. Et quand on va faire passer le jus de moustique, les moustiques broyés dessus, la matière change de couleur si les moustiques sont porteurs d'une maladie qu'on peut sélectionner. Et pour en arriver là, ça a été tout un travail.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le concours iGEM n'impose pas de sujet. C'est nous qui avons choisi de travailler sur les moustiques et chaque groupe choisit de travailler sur un thème différent. Donc déjà, tout ce travail d'en arriver à décider de travailler sur ces virus-là, ça a déjà été une très grosse partie du travail et un long processus, en fait.
Surtout qu'on est une équipe, en fait, nous, on était 19 étudiants. Donc, se mettre d'accord à 19 sur un sujet, pas facile. Donc, une grande partie du projet, en fait, c'était peut-être un mois ou un mois et demi. Ça a été, finalement, de trouver le sujet avant de vraiment commencer le projet.
Parce que du coup, on avait... on n'a pas dit, mais on était 3 designers, en fait. Il y avait aussi Charlène Guillaume. Et du coup, on avait divisé le groupe en 3, et chaque designer était associé avec d'autres biologistes et et des juristes. Et on avait chacun essayé de chercher, justement, en collaborant ensemble, des pistes de projets qui puissent à la fois répondre à des enjeux intéressants au niveau... que ce soit environnemental.
Oui, parce que c'est ça, dans iGEM, il y a quand même des catégories.
Oui,
c'est
ça.
Alors, je ne me souviens plus de toutes, mais c'est par exemple nutrition, diagnostic, environnement, recherche fondamentale. Donc, il y a quand même des grandes thématiques dans lesquelles les projets doivent rentrer.
Et du coup, on avait essayé de chercher des pistes de projets qui puissent à la fois exploiter des fonctions biologiques identifiées chez des êtres vivants et ces enjeux-là. Voilà, du coup, au début, on avait plusieurs options qui n'avaient rien à voir. On pensait pouvoir travailler sur du vin, par exemple, ou sur
des tatouages. Il y avait une crème pour pouvoir enlever les tatouages, en fait.
C'était une des options qu'on avait eues. Donc voilà, ça n'avait vraiment rien à voir avec ce sur quoi on a terminé. Et en fait, la piste qui a mené à ça, c'était une piste au début sur la matière silice. Au début, on s'était intéressé aux diatomées, justement, qui produisent de la silice. Et c'est à partir de cette production de matière que... Nous, au début, on fantasmait un peu sur la production de silice, etc. Et dit « Ah, oh, super, on va pouvoir faire des objets à partir de cette matière créée par les bactéries », alors qu'en fait, c'est microscopique, littéralement microscopique, ça ne se voit pas, donc on ne peut pas faire des objets à partir de ça, en tout cas pas dans le cadre du concours.
Pas des macro-objets, en tout
voilà,
cas.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, après, on s'est rendu compte que cette matière, on pouvait lui donner une fonction qui était de détecter des anticorps, c'est ça ? Antigène.
Oui, c'est ça.
Je ne sais jamais la différence. Et donc, de là, on s'est intéressé à quelles maladies on pourrait détecter, etc., etc. Donc voilà, c'était un processus comme ça, de petit pas en petit pas, de définition du projet qui en est arrivé là, quoi.
D'accord. Et dans ces processus de définition de projet, qu'est-ce qui se met en place ? Il y a des... je sais pas, des moments d'idéation, des moments de co-création, ou c'est...
Bah justement, en tant que designer, je pense que c'est là qu'on a pu prouver à l'équipe qu'on n'était pas là juste pour faire le logo et les t-shirts, ce qui nous prenait vraiment pour un peu les gugus de la bande, quoi. On allait faire le site internet, faire un joli logo, un t-shirt,
oui,
et voilà.
C'est que on a réussi par le fait qu'on a une capacité à justement mettre un peu en marche ce processus d'idéation et de participer à la cohésion du groupe, qu'on n'était pas juste les garants de l'esthétique ou de la communication du projet, quoi. Qu'on avait une vraie apport sur la définition du sujet même, quoi.
Bah on a mené en fait mener, c'est un grand mot, mais on a animé des séances de brainstorming au début par petits groupes, et ensuite pareil tout au long du projet, une fois qu'on a commencé à voir qu'on allait avoir une matière qui allait permettre de détecter les maladies chez les moustiques, bah, en fait je pense qu'ils ont été assez surpris, donc les chercheurs et enfin tous les autres membres de l'équipe, sur ce qu'on a pu amener pour le projet. C'est-à-dire que ils avaient à aucun moment imaginé le fait qu'on puisse, à partir de cette matière-là, proposer toute une solution pour pouvoir permettre une cartographie qui ensuite va permettre de lutter contre ces maladies-là en prévenant les épidémies, etc. Même de concevoir les dispositifs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait la matière, on a imaginé toute une station d'analyse, donc une espèce de micro-laboratoire qui fonctionne sans électricité. Pareil, le piège à moustiques, il y a eu différentes phases d'itération pour le mettre au point. Et ce qui était toujours intéressant, c'est qu'on collaborait, par exemple, pour le piège à moustiques avec une entomologiste au sein de l'Institut Pasteur. Et en fait, assez vite, il y a un peu un jeu de ping-pong qui s'est créé, où ils nous donnaient certaines informations, par exemple, quelle taille allaient faire les petits patchs, quelle quantité de liquide il allait falloir pour réaliser l'expérience. Et ensuite, nous, on adaptait ça sur nos objets, en fait. Donc finalement, c'était comme un échange avec des industriels pour mettre au point l'objet, mais là, c'était avec des scientifiques, des biologistes notamment.
D'accord, ouais, super intéressant. Et toi, Arthur, si on peut comparer, même si le projet est très différent, déjà c'est pas sur les moustiques, c'est sur la purification de l'air. Donc il y a peut-être pas ce côté, de travail avec des animaux, ou ce genre de choses. Mais comment est-ce que toi, ça s'est joué cette négociation-là ? Est-ce que t'as pu observer aussi qu'il a fallu prouver finalement ta légitimité, qu'il a fallu l'asseoir et la démontrer pour petit à petit gagner en fait en pouvoir, enfin, parce que c'est ça qui se passe, c'est jeu de décision, en fait, c'est qui décide quoi, enfin, c'est ça qui est important, ou au contraire c'est d'autres choses qui sont passées. Arthur Donald Bouillet.
Malheureusement, et de manière générale, je pense qu'on aura tous les trois à peu près le même avis. Tout au long des 9 mois, on est constamment en train de devoir prouver une légitimité, mais une sorte de capacité ou une posture qui est celle du designer, comme tu le disais Xavier, qui est pas celle de devoir faire absolument des logos ou de devoir faire la présentation ou de devoir faire un PowerPoint, enfin ce genre de choses. Et finalement, en fait, du coup, ça se négocie vraiment tout au long, et pourtant c'est pas un truc acquis, quoi. Enfin, vraiment, c'est assez difficile à mettre en place, et même si ça se fait au travers de différents outils, comme vous le disiez, donc c'est-à-dire des séances de brainstorming où on va identifier différentes problématiques, on les choisit aussi, même d'ailleurs par rapport à ça, il y a dans le choix de la problématique, il y a quand même aussi une volonté de d'accord répondre à des enjeux qui sont très généraux, qui touchent tout le monde, mais aussi il y a une dimension de c'est-à-dire avoir des projets qui sont quand même je vais employer un mot qui est peut-être pas le bon, mais sexy, c'est-à-dire des projets ou des problématiques qui attirent, en fait, parce que derrière il y a quand même aussi l'idée de ce projet, enfin du concours IGEM, qui inclut une forme
c'est un concours déjà.
Voilà, c'est un concours, et puis le but, c'est surtout, ça peut être de créer une entreprise. Il y a une volonté derrière de pérenniser la chose et d'en faire vraiment un modèle économique, quoi. Donc ça peut pas simplement être un projet pour poser des questions ou essayer de ramener telle ou telle réponse à une problématique. Ça doit être quand même dans un contexte très large, sociétal, planétaire, voilà. Mmh.
Peut-être tu peux revenir un petit peu sur ce projet Aether, qu'est-ce qu'il a été, comment tu l'as imaginé.
Ouais. Donc du coup, pour revenir au tout début de l'histoire, on était 2 designers. Donc j'étais accompagné de Julien Roussel, qui a finalement quitté l'aventure assez vite.
Ah, c'est intéressant, ça aussi.
Pour diverses raisons. Hein. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai peut-être un peu moins connu cet aspect biologie scientifique. Je suis beaucoup moins allé dans le laboratoire, j'étais moins aux côtés des scientifiques, même si on avait énormément de séances d'idéation, de réunions, quoi. On a connu donc ces fameuses séances pendant lesquelles on devait choisir la problématique. On s'est assez vite concentré sur la pollution de l'air. D'abord la pollution de l'air générale, quoi, atmosphérique. Et finalement, on s'est concentré sur la pollution de l'air intérieure, parce que finalement, en fait, elle concentrait à peu près toutes les pollutions. Et donc, on a petit à petit, au fil de ces 9 mois, construit un projet, donc à partir de la biologie de synthèse, en construisant en fait un filtre biologique qui est vraiment, du coup, le cœur du projet, autour duquel en fait s'articulent différents petits objets, dont un objet, on va dire un peu maître, qui est donc ce purificateur d'air, qui est en fait un produit sous forme de kit, qui est facile à monter, qui est censé être autonome en énergie, qui est équipé de cellules solaires flexibles, donc cellules solaires de Gretzel, qui sont sensibles autant à la lumière artificielle que naturelle. Et tout ça est en fait accompagné d'une application qui permet de cartographier les polluants à différentes échelles, donc pour adapter le filtre en fonction des polluants.
D'accord. Il y a une notion aussi de cartographie, enfin de science participative avec les purificateurs. Ça vient chercher des données ou...
Alors au début, oui. En fait, il y a une phase de bêta-test qui consiste effectivement à faire participer à des gens. Mais finalement, l'objectif quand même final, c'est de vendre à cet objet, quoi. Et c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même cette volonté de produire un modèle économique. Enfin,
d'ailleurs, il y a une catégorie de prix qui est entrepreneuriat.
Voilà, entrepreneuriat.
Dans IHM.
Et vous visiez cette catégorie de prix ou de fait vous étiez un petit peu obligé d'y rentrer?
C'est exactement ça, elle n'est pas forcément visée, mais en fait, il y a comme une sorte de cahier des charges pour le concours et cette catégorie, elle fait partie en fait des choses qu'il faut cocher, quoi.
D'accord.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a une partie du travail dans ce projet qui est de chercher des financements et que pour trouver des financements, c'est mieux d'avoir un projet qui est crédible économiquement parlant. Donc il y a aussi cet aspect qui rentre en jeu, quoi.
Et donc ça apporte plein de choses parce que ça donne des nouvelles idées, que ça ouvre le champ des possibles et que ça, enfin quelque part, c'est dur au quotidien de devoir prouver sa légitimité ou sa posture. Mais l'autre vertu que ça a, c'est que ça confirme qu'effectivement le design, autant il est appelé à plein d'endroits où peut-être qu'il devrait pas être autant appelé, enfin pour reprendre un peu l'expression de Pierre Damien Huyghe, et autant il y a des endroits où il est pas du tout présent, et notamment il est en tout cas pas très présent dans des labos de biologie ou de biologie de synthèse, et on pressent que il saurait apporter une dimension de plutôt de scénario, de prescription en fait, presque de voire d'être le garant d'une certaine, j'aime bien ce mot de pertinence, de vérifier que ce qu'on fait est pertinent et n'est pas simplement en train de répondre au cahier des charges du concours, mais est pertinent aussi par rapport au groupe qui le fait, et aux objectifs de ce collectif-là, quoi.
Oui. Mais c'est vrai on peut dire qu'il peut être garant d'une certaine cohérence, mais il y a aussi le fait qu'il puisse, permettre d'anticiper aussi certaines problématiques qui vont se poser, auxquelles je pense que les biologistes sont pas forcément, formés. Par exemple, dans le cadre de notre projet, pour tout ce qui était au rapport aux moustiques, comme c'était potentiellement des moustiques infectés et porteurs de maladies, à aucun moment dans l'usage des objets, ils imaginaient devoir faire attention à ça. En fait, c'est nous qui avons ramené un petit peu...
la notion de sécurité, en fait.
La notion de sécurité, en fait, dans les objets, pour pouvoir penser à tout ça. Non, il y a aussi quelque chose qui était intéressant... Je rebondis peut-être sur la question précédente, mais en fait, de devoir justifier sa place en tant que designer, c'était la première fois aussi où je me retrouvais à devoir expliquer ce que c'est que le design.
Ouais.
Parce qu'en fait, comme on est dans des écoles de design, tout le monde voit plus ou moins ce que c'est. Mais en fait, quand on doit expliquer ce que c'est que le design à des non-initiés, en fait, c'est pas si facile. Et moi, ça a vraiment été la première fois où finalement, j'ai pu me mettre au clair, ou en tout cas me donner ma propre définition de ce qu'est le design en ayant à l'expliquer à des scientifiques. Donc ça, c'était un exercice assez intéressant.
Donc t'as dû construire ta définition, quoi, parce qu'en tant qu'étudiant, c'est déjà pas facile.
En fait, j'ai l'impression que notre rôle, il a beaucoup été de faire le pont entre quelque chose justement qui est microscopique, qu'on voit pas à l'œil nu, et un humain qui est macroscopique, qui a des mains, qui a un corps, qui fait des gestes, quoi. Donc les objets qu'on a conçus, c'est qu'est-ce qui vient entre, quoi. Comment cet objet un microscopique invisible, il devient préhensible par un humain, utilisable, manipulable dans l'espace, quoi.
Après, il y avait toute une partie aussi qui était assez intéressante en tant que designer. C'est pour ce qu'ils appellent le human practice. Alors, le human practice, en fait, c'est toutes les questions qui sont en rapport avec l'éthique dans les projets iGEM. Et je pense qu'avec la capacité qu'ont les designers de créer des scénarios, peut-être à travers le design fiction ou autre, en fait, on arrive à partir de donc notre projet, à créer différents types de scénarios qui pourraient avoir lieu si on développait le projet, et en fait qui peuvent mettre en lumière certains points, certains dangers du projet. Ça, c'était assez intéressant aussi dans le projet.
À la fois sur la partie vraiment sur le concept de biologie synthétique et encore plus dans notre projet à nous, puisqu'on s'adressait à un contexte hyper particulier de maladies, d'épidémies, etc.
Et je lisais dans ton mémoire, Xavier, tu parles un petit peu d'éthique embarquée. Alors, je sais pas s'il y a d'éthique embarquée, en l'occurrence, sur les concours iGEM, mais en tout cas, c'est pas que tu la critiques, mais tu en soulèves les limites avec une lecture de Bernadette Benson-Vincent, notamment, et qui montre aussi... Enfin, donc, c'est Bernadette Benson-Vincent est une philosophe des sciences, et elle a montré à travers différents ouvrages, mais que d'avoir une éthique... disons, en fait, hyper spécialisé sur uniquement un sujet, où Marc Ugnadi dirait la petite éthique, finalement, parfois, ça permet de favoriser une certaine acceptation sociale de ces technologies-là. Et au fond, ça permet pas d'avoir l'éthique, l'overview. Comment, c'est une question un peu dure, ou c'est une réflexion, mais du coup, c'est à la fois comment est-ce qu'on trouve la balance pour effectivement donner des outils qui sont ceux du... ou effectivement du design spéculatif, d'aller chercher des scénarios extrêmement différents, complémentaires, qui vont aller chercher les frictions, les limites, et en même temps faire en sorte de d'auto-promouvoir en disant voilà, c'est bon, on a mis tous les garants on vous permet finalement de vous asseoir dans ce scénario là. Et enfin, je sais pas, c'est une question, enfin, c'est une réflexion.
Oui, c'est super intéressant parce que, alors moi, je m'en suis rendu compte après coup, notamment pendant l'écriture de mon mémoire, où en fait, c'est justement le human practice où on doit réfléchir à ces questions d'éthique. Donc, c'est un peu une éthique embarquée, c'est-à-dire que, en fait, c'est pour pallier au manque de régulation. C'est-à-dire qu'en fait, la biologie de synthèse, elle est pas encore vraiment régulée. Du coup, iGEM nous disent, réfléchissez donc à ces questions-là, à travers vos projets. Mais en fait, comme on est dans un concours qu'on veut gagner et qu'en plus il y a un petit peu l'euphorie d'avoir un projet qu'on trouve bien, etc. Finalement, le regard critique ou le recul critique pendant tout le projet iGEM, je l'ai pas du tout eu. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'en parlais avec des personnes, par exemple des problématiques que posent les modifications de ces bactéries-là, j'étais presque un lobbyiste de la biologie de synthèse. C'est-à-dire que je les écoutais, je comprenais leurs problématiques, mais à chaque fois dans mes réponses, c'était en mode « oui, c'est sûr, mais regarde tout ça et tout ça ». En fait, c'est vraiment après coup, en réfléchissant sur ce que ça m'avait apporté finalement iGEM dans mon mémoire, que là, je me suis dit « ah oui, mais en fait, c'est quand même dangereux, parce que on nous dit qu'il faut réfléchir à ces questions-là, mais en fait, c'est tellement bien fait iGEM ». C'est-à-dire qu'il y a une ambiance de dingue... Ils nous disent, voilà, il y a eu plein de projets incroyables qui vont sauver le monde. Même les thématiques qu'elles proposent, à chaque fois, c'est pas créer une bactérie qui va produire un nouveau virus qui va tuer tout le monde, quoi. C'est toujours des choses bienveillantes. Et ça, c'est problématique, je trouve, en effet.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes dans Bio is the New Black, avec Lisa Dehove, Arthur Donald Bouillet et Xavier Montois. Pour la première partie de notre entretien, le concours iGEM, vu et vécu par les designers. Lisiane Lagadic.
Après le succès de Mosquito qui a été quand même assez retentissant, est-ce que vous avez senti que la légitimité déjà du designer était beaucoup plus appuyée? Et est-ce que ça a déplacé un petit peu les rapports de pouvoir, donc notamment avec Pasteur, autour du projet? Et du coup, ma deuxième question, qui est plus pour Arthur, où c'était du coup l'édition suivante, est-ce que tu as senti une pression, un attendu supplémentaire à la suite du succès qui était dû en partie avec des designers, ou du coup qui a reposé en partie sur toi?
Xavier Montois.
Mais alors, est-ce que ça a changé les rapports? Déjà, nous, on n'était plus là pour savoir si oui ou non, il fallait qu'on continue de justifier l'intérêt du design. Mais les rapports avec Pasteur, ça a été compliqué, même après iGEM. C'est-à-dire qu'en fait, justement, comme le projet a bien marché, au début, il y en a qui voulaient un peu le continuer. Finalement, il y a une petite vague de creux où après, on n'en a plus trop reparlé du projet. Où là, ils nous ont dit, s'il y a des membres de l'équipe qui veulent monter une boîte ou en tout cas essayer de le développer, allez-y. Et puis, il y a un gros concours qui est arrivé où on a gagné une somme d'argent assez conséquente pour pouvoir essayer de développer le projet. Et là, tout de suite, il y avait plus d'intérêt que ce soit Pasteur ou même l'ENSI. Et c'est vrai qu'en fait, ça, c'était compliqué, nous, d'être au milieu, de vouloir monter le projet. Et en fait, se retrouver au milieu de toutes ces luttes un peu politiques entre les différents établissements, pour qui allait avoir l'argent, qui allait faire quoi.
Même la propriété intellectuelle du projet qui restait finalement assez floue.
Oui, iGEM est propriétaire, comment ça se passe ?
Lisa Dehove.
C'était toute une histoire parce que nous, le jour où on a présenté le projet à iGEM, en fait, on a tout dévoilé et donc il n'y a aucun brevet qui a pu être posé. Donc ça, c'est une question qu'on s'est posée après coup, mais qu'on aurait pu se poser avant. Et déjà la question de savoir, est-ce qu'on voulait breveter ce projet ou pas, quoi ?
Je recontextualise un tout petit peu, mais iGEM, du coup, c'est un concours qui est porté par le MIT. Donc, juste, enfin, pour resituer, donc.
Qui l'est plus maintenant, je crois que c'est indépendant.
Maintenant, c'est indépendant,
oui. Maintenant, c'est indépendant, mais qui était porté, du
coup. Oui, c'est ça.
Qui a été créé par...
Okay. Mais après, comme c'est de l'open science, alors je me rappelle plus, nous, on avait une équipe de juristes, justement.
En propriété
intellectuelle dans l'équipe, ils étaient trois, et ils devaient, ils ont produit un petit rapport sur toutes ces questions-là, de propriété intellectuelle, etc., sur le concours iGEM. Alors, pour être honnête, désolé à eux, mais je l'ai pas lu. Donc, je pourrais pas vous, enfin, répondre. Mais en tout cas, il y a quand même des équipes qui, après iGEM, arrivent à monter une boîte et à continuer à développer leur projet. Donc en fait, c'est pas propriété du MIT. Quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut pas, je crois qu'on peut pas breveter vraiment la séquence d'ADN ou la bio, mais c'est-à-dire que notre travail de design, on pouvait avoir un dessin et modèle, un brevet de dessin et modèle.
Mais la biobrique, oui, on la donne.
Ils conservent
une biobrique de chaque projet qui a été fait, en fait.
Et le principe des biobriques, c'est que c'est censé être de l'ordre du public, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui doit pouvoir réutiliser les biobriques qu'on a créées pour faire autre chose avec.
Notamment les équipes iGEM.
Je crois que voilà, ça reste dans le cadre étudiant.
Une équipe iGEM a le droit d'utiliser une biobrique.
Ça serait super intéressant d'avoir cette info-là parce que, enfin, bon, c'est peut-être une question sans faire la théorie du complot, mais à qui profite le crime ?
Ouais, franchement, c'est à quasi 100%, ça reste au sein de cette banque de biobriques qui appartient à iGEM, mais qui reste dans le cadre du concours, quoi. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, on peut aller chercher, enfin, se servir d'une biobrique qui a été conçue par d'autres étudiants dans des éditions précédentes, mais elles ne sont pas ouvertes au public ou enfin.
Mais après, il y a quand même, on est obligé en tant qu'équipe de faire un site internet sur lequel on doit tout dévoiler, en fait. C'est-à-dire que vraiment, pour que le jury puisse apprécier le projet, on est obligé de mettre toute la construction génétique, comment on en est arrivé là. Donc finalement, en fait,
ça revient à ouvrir.
Il y a ce cadre-là. Ouais,
c'est assez ouvert. C'est-à-dire qu'ils gardent les biobriques, mais en fait, l'information, elle est vraiment disponible à tout le monde, quoi.
Ouais. Enfin, pour comprendre quel type de science ça a promu, est-ce que c'est un type de science ouverte ou pas, enfin, ou dans quelle mesure?
À l'origine, c'est ça, ouais, en tout cas. Ouais.
Ok. Et du coup, Arthur, t'as pas encore répondu à la question de Lysiane.
Pour répondre à la question, j'en faisais écho, je crois, tout à l'heure. Cette idée de devoir choisir une thématique ou une problématique qui est un peu sexy, je reprends ce mot-là, voilà, mais qui est un peu séduisante, en fait, quoi. Et du coup, c'est vrai que elle n'était pas dite clairement, mais je sais, moi-même, en tout cas, je ressentais une sorte de pression, mais de devoir, en tout cas, être au même niveau que le projet de l'édition précédente. Et puis, mine de rien, on n'est pas uniquement dans le cadre d'une école, étant donné que c'est un partenariat entre plusieurs écoles et l'Institut Pasteur. Et donc, mine de rien, même l'Institut Pasteur, par contre, ça, je le ressentais clairement, qu'il y avait des pressions de la part de l'Institut Pasteur, pas sur nous encore en tant qu'équipe, mais sur sur la personne qui nous suivait, donc qui est Deshmukh Gopal. Donc ça se ressentait quand même un peu.
Moi, en fait, maintenant, je travaille avec un laboratoire de bio. Et en fait, c'est en voyant le projet iGEM qu'ils m'ont contacté pour faire un travail assez similaire, puisque ça, c'est aussi un dispositif de détection. Et là, pour le coup, dans cette équipe-là, j'ai pas du tout l'impression d'avoir à justifier ma présence ou mon apport ou... parce que c'est eux qui sont venus me chercher et ils savaient pourquoi ils sont venus me chercher. Et donc après, forcément, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des designers. Donc il y a certaines compétences que j'ai qu'ils ne savaient pas que j'avais et qui se découvrent au fur et à mesure. Mais en tout cas, ils m'ont appelé pour faire du design produit sur un test de, voilà. Donc ils savaient, en voyant ce projet, de quoi j'étais, entre guillemets, capable par rapport à ce que eux, là où ils en étaient dans leur projet.
Ouais, peut-être on peut spécifier un tout petit peu quel est ce projet. Et puis, on en avait un tout petit peu parlé en amont avec toi, mais Je pense qu'il y a une certaine urgence, notamment parce qu'il s'agit d'un test pour le Covid et qu'on est en... Là, on enregistre, on est en septembre 2020. On est à un moment où il y a de plus en plus de tests qui sont faits et il y a une demande qui est vraiment croissante. Et tu arrives à un endroit où je pense que l'urgence rebat les cartes, en tout cas des collaborations. Et ça crée d'autres choses.
Alors, ouais,
que
bien
quoi,
sûr.
Peut-être c'est un peu tôt pour le dire, mais...
Ouais. Du coup, je travaille pour l'équipe de recherche MMN, qui est une équipe de recherche en microfluidique. C'est une équipe de l'ESPCI Paris PSL qui est à l'IPGG, c'est l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Voilà. Et donc on travaille sur un test rapide pour le Covid, qui c'est un test qui est aussi performant que la PCR et qui se fait en une heure à peu près. Et oui, je suis d'accord que l'urgence les amène vraiment à pousser le projet jusqu'à sa réalisation. C'est-à-dire que ces tests, en fait, ils travaillaient avant sur des tests papier justement destinés aux maladies portées par les moustiques, les herbovirus. Et en fait, ils se sont rendus compte pendant le confinement que leur technologie pouvait être transférée au Covid. Et donc, c'est une recherche qui dure depuis, je crois, 5-6 ans. Donc là, ils ont vraiment compressé en 6 mois, 5 mois, un travail d'aboutissement de ces objets-là et de ce projet-là qu'ils n'auraient, je pense, pas fait s'il n'y avait pas eu cette urgence actuelle, quoi. Après, ce qu'on peut questionner aussi, parce que l'urgence de ces autres maladies, les herbovirus, elle existe aussi et depuis très longtemps. Donc, parce que c'est à nos portes, enfin, que c'est proche de nous, il y a plus d'argent, il y a plus de moyens qui sont mis, il y a plus de temps qui est alloué à cette question-là pour que ça sorte le plus vite possible.
Mmh. Oui, au fond, c'est vrai que ça, enfin, on voit assez clairement l'enjeu financier. Mmh. Ça n'a pas été une question de te payer, pas te payer. Il fallait,
bien sûr,
fallait faire le projet.
Oui, et puis le but, c'est évidemment que ça serve au plus grand nombre, mais c'est aussi de le vendre, quoi. Donc voilà, il y a aussi un intérêt économique derrière, au-delà de l'urgence, quoi.
Michael,
peut-être juste pour encore pour rebondir sur iGEM justement une dernière fois, mais on parlait beaucoup du côté du design. Est-ce que vous avez pu constater aussi comme une forme de décalage ou une prise de recul du côté des scientifiques, en fait, soit pendant le concours, soit après le concours, sur ce qui avait été fait, quoi.
Sur la biologie synthétique.
Ouais.
Oui. Est-ce que finalement ces projets-là ont aussi nourri leur regard et leur propre pratique? En quoi le design au fond change la façon de faire science, quoi?
Ça l'a déjà été pour nous, donc pour eux, en fait, étant donné que c'est quand même une expérience collective super intense, notamment entre juillet et août, on va dire juillet et même novembre, carrément, parce que on est, en tout cas, en juillet et août, on est 100% tous les jours ensemble. Donc en fait, là, il y a plein de choses qui se partagent, et je pense que c'est à ce moment-là, en fait, où d'ailleurs le projet se construit réellement, quoi. Et effectivement, je pense qu'ils ont pris beaucoup conscience des impacts que pouvait avoir cette technologie et du regard qu'ils pouvaient avoir, enfin, de la façon dont leur regard pouvait être transformé à travers cette transdisciplinarité.
Oui, c'est possible. Après, on a gardé contact, mais c'est vrai qu'on a rarement parlé de ces questions-là. En tout cas, de manière sûre, je pense que ce que ça leur a apporté, c'est aussi de pouvoir se rendre compte que, en fait, les travaux qu'ils font en laboratoire, ça peut ne pas être juste de la recherche fondamentale. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui, avant le projet iGEM, aient vraiment réalisé un projet un peu global comme ça, qui répond à une problématique de la phase d'idéation jusqu'à la phase vraiment de réalisation, quoi.
Pour autant, moi, par contre, ce qui m'a interpellé par la suite, en tout cas, nous, on n'a pas voulu continuer le projet. Enfin, moi, en l'occurrence, j'étais plutôt pour. Enfin, j'ai essayé même avec une autre personne, mais tous les autres étaient plutôt, pas déçus, parce que c'était une expérience vraiment très très riche qui nous a tous apporté des choses. Mais je pense que vis-à-vis justement de la technologie en elle-même, vis-à-vis de la biotechnologie et de la biologie de synthèse, je pense que ça nous a tous un peu dégoûtés, en fait. Il y a eu un truc comme ça, quoi, parce que ça soulevait plein de questions, plein de problématiques, que ça soit éthique ou même de comment réaliser ce type de projet, quoi.
Quand tu dis dégoûté, c'est que t'as ressenti une forme de travail, que t'as ressenti comme violente, finalement, où tu as eu la sensation de pas être en accord avec toi-même et d'avoir.
Tous, on était dans une forme de, je dirais pas de violence, mais de devoir produire absolument quelque chose. Dans le cas du concours, bon, évidemment, c'est un concours, donc à la base, on le fait quand même pour gagner, même si d'ailleurs, il y a autant de médailles que de nombre de participants, où c'est quand même un truc, c'est pas pour être le premier absolument, quoi. Mais c'est tellement intense en fait sur ces 9 mois que bah du coup à la sortie on n'a pas toujours envie de continuer quoi.
D'accord, donc au fond peut-être qu'il y a enfin travailler en tout cas sur de la biologie synthétique et d'aller chercher à enfin du coup en tout cas faire quelque chose de cette programmation du vivant, c'est pas du tout neutre. Et puis vous l'avez vécu en tout cas en termes d'intervention sur votre propre pratique, peut-être comme quelque chose, enfin en tout cas toi tu parles de dégoût, c'est quand même super fort. Enfin quelque chose qui t'a ouais qui t'a fortement perturbé quoi.
Pas comme on le disait tout à l'heure, enfin c'est-à-dire qu'on arrive en tant qu'étudiant mais on est naïf quoi, c'est-à-dire on arrive avec des fantasmes, c'est-à-dire en fait l'idée de pouvoir prendre différents bouts d'ADN, de pouvoir les composer, de pouvoir créer du coup des créatures en fait, enfin des espèces nouvelles, c'est hyper enfin c'est comment dire, c'est ancré dans des imaginaires qui sont très vieux et finalement le recul de tout ça il arrive bien plus tard quoi.
Moi, j'ai pas vraiment été dégoûté, mais ça m'a en tout cas permis de me poser des questions que j'ai continué à explorer par la suite en tant que designer, sur notamment l'utilisation du vivant comme ressource ou comme technologie. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été dégoûté de maltraiter des bactéries entre guillemets, mais parce que c'est des bactéries et c'est aussi ça une question, c'est-à-dire que surtout dans notre époque actuelle où on questionne vachement le rapport à la maltraitance animale, à notre positionnement en tant qu'humain par rapport aux autres espèces. En fait, quand on parlait par exemple du projet Mosquito, c'est la première fois que ça m'a choqué, c'est qu'on disait qu'on modifiait génétiquement des bactéries. Donc jusque-là, personne ne se souciait des bactéries. Ensuite, on disait on vient les broyer, les écraser pour récupérer des protéines. Là, ça ne choquait pas vraiment non plus. Et après, on leur disait... Et donc, on capture des moustiques et on broie les moustiques. Et donc là, déjà, c'était en mode « Ah, mais il faut broyer les moustiques et tout ça ». Et encore, ça passe parce que c'était des moustiques. Mais du coup, c'était marrant de se dire que, en fait, à l'échelle de la bactérie, alors certainement parce que c'est pas visible, mais en fait, ça choquait personne, quoi. Ce qui choquait, c'était de modifier génétiquement le vivant. Mais en tout cas, la manière dont on traite ces organismes vivants-là, ça choquait personne, quoi.
Après, enfin, effectivement, il y a l'éthique animale, qu'elle soit bactérienne, moustique, insecte ou autre. Mais j'imagine, disons, les questions biopolitiques qui sont posées par la biologie synthétique, c'est pas. Je pense qu'elles sont vraiment au-delà de est-ce qu'une bactérie a une question de conscience et est-ce qu'on la maltraite ou à ce moment-là, effectivement. Ça devient insupportable d'être dans ce rapport-là, de contrôle de n'importe quel être vivant. J'imagine. Enfin, moi, de ce que je comprends du dégoût dont tu me parles, c'est pas. Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est plutôt celui d'avoir une pratique qui, à tes yeux, ne répond pas à tes propres valeurs ou à ton propre ethos, quoi, en fait, où tu te retrouves.
Je pense que c'est un peu ça, ouais, en fait. Mais c'est de s'en rendre compte, qu'a posteriori, quoi. Enfin, que vraiment quelques mois, voire même, enfin, je dirais presque un an après, quoi. Il y a ce projet, et puis, on enchaîne, du coup, sur d'autres projets.
Plus personnel aussi.
Et puis, voilà, c'est ça, quoi. Et puis, il y a effectivement qu'au stade du mémoire où, pour le coup, on a choisi. Certains d'entre nous de faire des mémoires qui sont axées sur ces questions-là, et donc du coup c'est peut-être pas pour rien non plus. Et donc c'est à ces moments-là où on a pu prendre le temps vraiment de développer ces questions, de développer ces réflexions, et sur l'impact qu'elles pouvaient avoir sur nous, ou en l'occurrence peut-être pas sur les biologistes, mais en tout cas sur nous.
En rediscutant avec Arthur Donald Bouillet avant la diffusion de cet épisode et à sa réécoute, on a senti peut-être une forme d'ambiguïté qui aurait pu se créer autour de ce terme de dégoût. Et voilà, on voulait revenir et nuancer. Pour simplement dire que voilà, ce qu'on souhaite partager, c'est que participer à un tel concours iGEM avec des technologies qui manipulent le vivant, ça pose des questions éthiques et morales d'ordre personnel qui sont fortes, mais qu'en aucun cas il faut intégrer le travail des biologistes dans ce sentiment de dégoût, ni même le travail de collaboration avec les autres personnes qui ont partagé ce projet-là.